Matthew Minamen Thacker.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Et ce soir, c'est avec Laura Angela Bagnetto de la rédaction en anglais.
Good evening.
Qui revient du Soudan pour voir les effets de la révolution qui a abouti à la destitution d'Omar El-Béchir. Pour la rédaction en portugais, Karina Branco.
Hola a todos.
Qui reviendra sur l'attaque djihadiste de fin mars au Mozambique. Et Dimitri Guzev de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Au sujet des exactions commises par des Russes en Centrafrique. Bonsoir à vous tous. Commençons par nous intéresser à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, ainsi qu'à une certaine polémique en France, et puis aussi à l'écho de cette célébration dans le monde. Alors, je commence avec vous, Laura Angela Bagnetto. Comment avez-vous traité ce sujet à la rédaction anglophone ?
On avait prévu d'aller à l'île de Sainte-Hélène où Napoléon est mort, mais à cause de la pandémie, c'était annulé. Mais mes collègues sur le podcast Spotlight on France se sont intéressés à cette île très hostile et très loin de la France. C'était intéressant de savoir plus sur la fin de ses jours. Et après la bataille de Waterloo, les Britanniques voulaient l'envoyer loin de tout. Ma collègue Sarah Elsass a interviewé Michel Danquan Martineau, le directeur du domaine national de Sainte-Hélène. Il s'occupe du musée Napoléon là-bas. La maison où vivait Napoléon. Il a beaucoup parlé de l'île et la très grande solitude de Napoléon.
Et Dimitri Guzev, on se souvient de la retraite de Russie, après Waterloo, avant Waterloo, qui a sonné le glas de Napoléon. Au regard des liens entre l'histoire de Napoléon et celle de la Russie, forcément, hein, ce bicentenaire de sa mort a dû avoir un écho dans les médias russes. Hein.
Exactement, sauf que la ligne proposée par Emmanuel Macron pour cette commémoration, et pas célébration, n'est pas respectée. Il ne faut pas faire porter à l'histoire le poids de nos débats contemporains, disait-on à l'Élysée. Mais la télévision officielle russe ne rate jamais l'occasion d'étaler ses critiques et querelles avec l'Occident. Voici un bref décryptage. À quoi peut servir l'empereur de France si on est journaliste de la télé de Poutine ? Abolir Napoléon, titre son reportage de Paris le 5 mai, la chaîne d'État Rossiya Russie Première. D'ailleurs la plus regardée dans le pays. Les polémiques en France sont résumées ainsi. Napoléon, premier architecte de l'Europe unifiée ou instigateur des guerres qui ont détruit des millions de vies. Fondateur de la France moderne ou un aventurier qui a affaibli son pays. Grand homme politique ou médiocre, raciste et misogyne. Le débat sur l'histoire finit par se transformer en discussion sur l'avenir du pays et la chaîne russe croit savoir que de plus en plus de Français voient cet avenir sans Napoléon. Russie première rappelle l'attitude des prédécesseurs de Macron envers Bonaparte. Chirac le détestait, Sarkozy et Hollande essayaient de l'éviter. La commémoration voulue par Macron va à l'encontre de cette soi-disant tradition. Même si le président a bien choisi ses mots pour regarder en face l'histoire et cet être complexe qu'était Napoléon, admet la chaîne russe pour épingler ensuite au passage le président français.
Macron et Napoléon ont des relations особенные. Президента не раз с ним сравнивали. Оба молоды,
que dit-elle?
C'est la journaliste de la chaîne correspondante en Europe, en France, à Paris, qui dit que Macron a des relations particulières avec Napoléon car plusieurs fois comparé à l'empereur de la France. Sur l'écran, on voit les caricatures présentant Macron en Bonaparte, en uniforme et en bicorne. Macron et Napoléon, tous les deux jeunes, très arrogants, qui ont fait irruption surprise sur la scène politique avec l'ambition de remodeler la France et toute l'Europe. Cette comparaison vite tournée au désavantage de Macron et de la France d'aujourd'hui, qui, selon la chaîne russe, a perdu sa grandeur du passé, n'arrive toujours pas à se rétablir des conséquences des guerres napoléoniennes et pirouette de pensée peine à bien contrôler ses frontières contre l'arrivée des migrants.
Alors, côté russe, comment est-il expliqué ceux qui doutent de l'opportunité de commémorer Napoléon ? Est-ce qu'il y en a ?
Ces critiques sont expliquées ainsi par une vague de, voici, je cite le terme, le racisme de gauche qui monte en France. ce racisme de gauche est en provenance naturellement des États-Unis, comme tous les mots pour la télévision de Poutine, et donc ce racisme est renforcé par le mouvement BLM. Après avoir évoqué le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, la chaîne Russie Première prend la défense de l'empereur en assurant les Français que leur système politique actuel, et je cite, est entièrement fondé sur les lois de Napoléon, et on cite pêle-mêle Code civil, Lycée, Banque de France, Légion d'honneur. Même accent bonapartiste dans le reportage de la chaîne NTV, qui fait le trio de tête des chaînes russes les plus regardées. La défense de Napoléon est assurée par son descendant Charles Bonaparte, professeur d'économie à Paris, qui se dit révolté par les appels à annuler la commémoration du bicentenaire. NTV passe la parole à David Chantoran, commissaire de l'Expo Napoléon, la naissance de légende, qui vient d'ouvrir ses portes au mémorial Waterloo en Belgique. Il parle des réflexions de Napoléon à Sainte-Hélène à la fin de sa vie. Ces réflexions sont résumées ainsi par la chaîne russe, l'Europe, qu'il rêvait de bâtir, se trouve entre deux puissances montantes, États-Unis et Russie. Il faut toujours compter avec eux. Si vous voulez continuer à vivre en Europe, il faut bâtir vos relations exclusivement avec ces deux puissances-là. Voici le testament de Bonaparte, version voix du Kremlin.
Karina Branco, comment est-ce que la rédaction lusophone de Radio France Internationale a traité ces 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte ?
Alors, nous avons bien sûr traité les polémiques autour de cette figure complexe de l'histoire française, notamment le rétablissement en 1802 de l'esclavage aboli par la Convention de 1794. Mais nous avons aussi parlé des invasions napoléoniennes au Portugal. Napoléon Bonaparte est célébré comme un héros presque invincible en France en raison de son habileté militaire. Or, il y a beaucoup de guerres meurtrières et de défaites, pas que Waterloo, notamment lors des trois tentatives repoussées d'envahir le Portugal. C'est ce que nous a expliqué l'auteur portugais Manuel do Nascimento, qui a publié une chronologie commentée de Napoléon dans les éditions L'Harmattan. Écoutons-le.
Quand je suis à France en 1970 et que je parlais de Portugal, plusieurs personnes connaissaient le Portugal, mais surtout l'histoire du Portugal.
Alors, que dit-il, Karina ?
Alors, il dit que quand il est arrivé en France dans les années 70, les gens ne connaissaient pas le Portugal et encore moins son histoire. Alors, quand il parlait des invasions napoléoniennes au Portugal, les gens disaient que c'était faux, car ils n'en avaient pas appris ça à l'école. Tous les livres parlaient des victoires de Napoléon et pas de ses défaites, sauf celle de Waterloo, et sur les tentatives d'invasion repoussées au Portugal. Portugal, c'était silence radio. Donc, une image de légende dorée, mais la légende noire reste. Entre octobre 1810 et mars 1811, on considère qu'environ 50 000 civils portugais meurent de faim et de maladie pendant la troisième invasion française. Les trois invasions, en 1807, 1809 et 1810-11, vont contribuer pour la chute du premier empire français et par contre-coup pour l'indépendance du Brésil. Aussi, car après avoir repoussé à trois reprises les Français menés par Junot, Masséna et Soult, les armées anglo-portugaises dirigées par le marquis de Wellington au Portugal passent en Espagne et poursuivent leur avancée jusqu'en France avec la campagne de France en 1814 qui aboutit à la première abdication de Napoléon Ier et à la chute du Premier Empire.
Bien, merci pour ce point historique que j'avoue, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'à trois reprises, Napoléon avait voulu envahir les Portugais avec ses bilans terribles. Bien évidemment.
Je suis là pour ça.
Laura Angela Bagnetto, qu'est-ce que le monde anglophone, cette fois, a dit à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Napoléon ?
Aux États-Unis, franchement, il y a beaucoup d'actualités avec la pandémie, la vaccination, le procès du Chauvin. Le mort de Napoléon n'est pas un anniversaire important et les médias n'ont pas beaucoup parlé de lui. Mais en Angleterre, c'est une autre chose. Et parfois, les médias s'amusaient à comparer Macron avec Napoléon. Une ex-parlementaire britannique a posé la question « Emmanuel Macron, est-ce que c'est le nouveau Napoléon ?» Non, c'est une poutine d'un magasin discount. Mais certains historiens britanniques, comme Andrew Roberts, soulignaient une certaine similitude entre Macron et Napoléon Bonaparte. Ils étaient tous les deux jeunes, lettrés et très intelligents. Ils sont arrivés au pouvoir en battant des opposants de droite, tous deux avec l'ambition de réformer la France et de la placer au cœur d'une Europe unifiée En plus, ils avaient tous les deux un œil sur la Grande-Bretagne avec ses demandes constantes de libre-échange avec le continent. Les deux hommes trouvaient la Grande-Bretagne un peu irritant, en fait.
Intéressant de voir que certains médias, quels que soient les pays, hein, d'ailleurs, tentent de faire le parallèle, en tout cas se posent la question de faire le parallèle entre Emmanuel Macron et Napoléon Bonaparte. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 heures Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Des sujets traités par les rédactions en langues étrangères de RFI et essentiellement par elle. Tout d'abord, la rédaction en portugais. Intéressons-nous au Mozambique, d'où Total se retire provisoirement après l'attaque djihadiste commise à la fin du mois de mars. La situation inquiète fortement le gouvernement mozambicain, Karina Branco.
Tout à fait, Philippe. La province de Cabo Delgado est très pauvre, mais très riche en gaz naturel, avec de vastes réserves sous-marines de gaz. Découvertes au début des années 2000, Total comptait inaugurer en 2024 le plus gros investissement étranger en Afrique. Mais l'attaque djihadiste dans la ville de Palma, tout proche de ses installations, pourrait tout mettre en échec. D'autant plus que les attaques au nord du Mozambique ont commencé en 2017 et visiblement ont été sous-estimées. Nous avons des informations sur une visite du président mozambicain à l'Élysée le 18 mai. On peut donc sous-entendre que le déplacement en France du président Philippe Nyusi puisse avoir un lien avec la suspension pour un an des opérations du groupe Total.
Alors, est-ce que c'est à cause de tout ce que représente économiquement ce projet pour le Mozambique et même pour la France,
hein ? Tout à fait, même si le poids peut être mesuré différemment. Voyons, l'exploitation des gigantesques réserves de gaz offshore devrait permettre au Mozambique d'engager un tournant radical dans son développement. Puis, il s'agit du plus gros investissement privé en cours en Afrique, fait par un consortium mené par la France et qui est estimé à 20 millions d'euros. Cependant, même s'il s'agit du plus gros projet de gaz au monde de Total, le groupe français ne dépendrait pas que du Mozambique pour assurer son avenir dans ce domaine, car Total s'est hissé au deuxième rang mondial des compagnies privées dans le gaz naturel liquéfié et peut se concentrer sur d'autres projets comme l'extension de son usine de liquéfaction en Louisiane et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et puis, il faut dire que le Mozambique comptait sur ce projet géant pour devenir un des principaux exportateurs de gaz dans le monde.
Oui, et donc la menace djihadiste jusqu'alors sous-estimée et la revendication de l'attaque du 24 mars par le groupe État islamique chamboule le calendrier et les affaires. Donc, force est de constater que la venue du président mozambicain à Paris ne doit pas être une coïncidence de calendrier. Même, c'est ce qui nous a dit Adriano Nuvunga, directeur de l'organisation de la société civile Centre pour la démocratie et développement du Mozambique.
Non tem como não ter que ver aquilo que é a governação política e económica em Moçambique gira à volta.
Alors, quelles sont ces explications ?
Alors, il nous dit que la venue du président mozambicain à Paris est forcément liée à la suspension de Total, car le rétablissement économique du Mozambique dépend de ça. Adriano Nuvunga nous dit aussi que le président mozambicain ne peut pas venir les mains vides et qu'il doit montrer qu'il agit pour rétablir la sécurité. La question est de savoir s'il va finalement accepter de l'aide internationale sur le territoire pour lutter contre le terrorisme. Jusque-là, le Mozambique niait de l'aide militaire internationale et là, récemment, la SADC a proposé l'envoi d'une force au Mozambique. Bref, il faut voir aussi que c'est dans l'intérêt de tous, la reprise du projet de Total, d'une part, parce qu'il y aurait déjà beaucoup de gaz entièrement prévendu à de pays comme la Chine, l'Inde, le Japon. D'autre part, parce que c'est un investissement majeur d'une entreprise française.
Alors, Total prévoyait un démarrage de la production en 2024. Mais après cette attaque de Palma, le groupe a retiré l'ensemble du personnel de ce projet en déclarant une situation, un cas de force majeure.
En effet, cette notion juridique est invoquée lorsque les conditions exceptionnelles empêchent la poursuite d'un chantier et l'exécution des contrats qui y sont liés. Total a aussi expliqué attendre que les actions menées par le gouvernement du Mozambique et ses partenaires régionaux et internationaux permettront la restauration de la sécurité et stabiliseront la province de Cabo Delgado d'une manière durable. Ceci est un moyen de pression sur le Mozambique, nous a expliqué Inocencia Mepis, chercheuse mozambicaine dans le domaine des hydrocarbures.
Pode se entender sim como uma pressão que a Total está a fazer ao governo, que é a mensagem que está a ser deixada.
Quelles sont les explications d'Innocentia Mappis?
Elle considère que la décision de Total est une forme de pression sur le gouvernement mozambicain et qu'il faut que l'exécutif agisse pour que Total reste, car ce projet est la clé pour la croissance économique du Mozambique. Ce retour est dépendant des garanties de sécurité durables dans la région, mais les attaques dans le nord du pays ont commencé en 2017 et pour l'instant, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Pour résumer, si Total ne revient pas, le Mozambique assistera à la disparition sur son territoire du plus gros projet d'investissement direct étranger en Afrique, d'autant plus que même le Premier ministre Carlos Agustín do Rosário a avoué dimanche dernier que les groupes terroristes sont en train de créer des cellules silencieuses dans tout le pays et peut-être même dans la capitale Maputo. Il faut aussi parler de la catastrophe humanitaire dans le nord du Mozambique. L'attaque du 24 mars aurait provoqué la fuite de près de 30 000 personnes de Palma. Mais les attaques dans la région durent depuis, comme j'ai dit, fin 2017 et ils ont fait depuis au moins 2500 morts, plus de 714 000 déplacés et 950 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire urgente.
Voilà donc pour le Mozambique, Karina Bronco. Encore quelques mots sur le Portugal qui est dans l'actualité en cette fin de semaine.
Exactement, Porto accueille aujourd'hui et demain le sommet social de l'Union européenne dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. 24 des 27 chefs d'État et des gouvernements de l'Union sont présents, notamment Emmanuel Macron. Le but, c'est de mettre en œuvre un plan d'action pour le pilier européen des droits sociaux, un agenda social qui a pris tout son sens avec les conséquences sociales dramatiques de la pandémie. Les 27 devront s'engager dans la protection et création de l'emploi, accès à l'habitation, dans le redressement économique et dans la lutte contre la pauvreté.
Et de ce sommet, il en sera bien sûr question sur les antennes de Radio France Internationale. Cela fait 2 ans depuis que la révolution au Soudan a eu lieu, qui a mené à la destitution d'Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays avec une main de fer pendant 30 ans. Laura Angela Bagnetto, vous étiez récemment à Khartoum, où vous vous êtes entretenue avec des jeunes qui ont participé à cette révolution. Vous avez recueilli leurs témoignages. Que vous ont-ils dit?
Oui, une jeune femme que j'ai parlé n'avait que 18 ans lorsque la révolution a commencé. Elle s'appelle Rivka Abdelrahman. Avant d'aller à l'université, elle ne savait rien de ces 30 ans d'oppression politique, mais elle a décidé de faire sa part. Elle a été surnommée la chasseuse de gaz lacrymogène parce que lors des manifestations, les soldats ont lancé les bombes lacrymogènes et elle a renvoyé les bombes aux soldats. Son action a beaucoup inspiré des jeunes femmes soudanaises et elle me parle de pourquoi elle s'est engagée. Écoutons-la.
Alors, pourquoi s'est-elle engagée?
Elle dit que j'ai vu des gens mourir, j'ai vu à quel point les forces de sécurité traitent les manifestations de manière agressive et les effets des gaz lacrymogènes sur les gens. Alors, j'avais envie de réagir. Nous voulions la fin de la corruption dans ce pays, plus d'oppression, de meurtre et de banditisme, que les gens se sentent comme chez eux.
Parce que beaucoup de jeunes Soudanais partent finalement.
Oui, en effet, de nombreux Soudanais obtiennent leur diplôme universitaire puis partent travailler à l'étranger parce qu'ils ne veulent pas être opprimés. Pendant la révolution, Rivka a créé une ligne de défense contre les forces de sécurité. Elle est devenue célèbre et les gens ont fait des peintures murales en son honneur. Et elle est fière de ce qu'elle a fait et elle refuse d'être muselée. Elle continue à travailler pour la révolution pendant sa deuxième année et en ingénierie à l'université de Khartoum.
Est-ce que d'autres jeunes de la révolution ont eu des expériences similaires?
Oui, malheureusement, beaucoup ont payé un prix très fort. Ils ont été mutilés ou tués au cours de manifestations pacifiques lorsqu'ils ont été attaqués par les forces de sécurité. D'autres ont disparu. Personne ne sait où ils se trouvent aujourd'hui. Les gens professionnels, en particulier les médecins, ont joué un rôle majeur. Et certains, comme le docteur Mohamed Naji, ont payé un prix important. Nagier était le visage de la révolution. Il était le porte-parole de l'Association des professionnels du Soudan et en décembre 2018, il a lu le manifeste révolutionnaire sur Facebook Live qui a déclenché la révolution.
Il a donc été arrêté en janvier et détenu pendant près de 100 jours.
Oui, exactement. Et pendant ce temps, il est devenu célèbre et les Soudanais ont demandé sa libération de prison et il était submergé par la tension quand il est sorti. Il a été actif jusqu'en avril lorsque l'alliance politique a signé un accord avec le conseil militaire. Cela a formé le nouveau gouvernement après Bachir, mais ce travail a brisé sa carrière. Il est difficile pour lui de trouver un travail régulier. Écoutons le docteur Nagy.
The professional track is now almost over and it's very different now.
Il dit que la profession de médecin est très exigeante et que c'est compliqué de faire une pause, même une fois. Alors, arrêter de travailler pendant plus de 2 ans comme moi, c'est très difficile. Et pas seulement pour moi, mais pour tous mes collègues. Il explique qu'il était obligé de repenser leur carrière. C'était difficile de jouer deux rôles, celui d'activiste dans la révolution et puis dans l'après-révolution. Aider à mettre en place la transition, ça a demandé beaucoup d'efforts.
Il a donc sacrifié sa carrière pour la révolution. Sa participation lui a coûté cher, donc disons en termes de carrière. Quelles sont les autres histoires que vous avez pu recueillir, Laura Angela?
Oui, j'ai rencontré une étudiante qui n'avait que 16 ans lorsqu'elle a commencé à manifester. Elle faisait un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum et elle avait, avec 800 000 personnes, les forces de sécurité ont dispersé tout le monde et ils ont tué au moins 127 personnes. Et cette étudiante s'appelle Luden Tariq. Elle était en colère et elle chante un chant anti-militaire avec des jeunes camarades, des hommes. La vidéo est devenue virale et les jeunes hommes n'ont pas eu des problèmes par la suite. Mais elle, oui. Écoutons-la.
فأنا بشوف إنه هم شايفين إنه كيف بيت تجي في الشارع تقوم تسيئنا بالطريقة دي وكيف البيت تعمل تقول لنا كده.
Alors, cette militante, Luden Tariq, que dit-elle?
L'armée a tenté une action en justice contre moi parce qu'elle pensait que c'était une insulte. Pourquoi une fille nous insulterait de cette façon? Comment cette fille pourrait-elle dire ça de nous? Je pense que cela les a bouleversés et ils ont pensé que je devais leur présenter mes excuses. Mais elle n'a pas fait. Elle rit et m'explique qu'elle n'a rien fait de mal. Tout le monde chantait ce chant, ça montrait que nous partageons tout le même rêve et ils ont tué ses rêves. Elle a été attaquée aussi par les gens parce qu'elle ne portait pas de foulard. Même si le port du foulard, c'est pas obligatoire au Soudan, la société est conservatrice. Et les gens ont aussi critiqué Luden pour ses vêtements. Elle était harcelée. Elle admet que c'était difficile pour elle psychologiquement.
Voilà donc pour quelques-unes des personnes que vous avez pu rencontrer au Soudan, Laura Angela Bagnito de la rédaction en anglais. Cette semaine, RFI a publié une longue enquête sur la présence militaire de la Russie en Centrafrique. En Centrafrique, des victimes des exactions russes brisent la loi du silence, parlent de graves violations des droits humains commises par les Russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine. Dimitri Gusev de la rédaction russe, cette enquête a vite été relayée en Russie.
Oui, tout à fait, mais la plupart des médias, bon, presque tous les médias indépendants, je souligne ça, en langue russe, ont parlé de cette enquête réalisée par Florence Maurice et Charlotte Cossé, sur la base des rapports confidentiels de l'ONU et des témoignages recueillis sur place. Je pensais que les Russes étaient là pour nous secourir. Exécution, viol, pillage. C'est comme ça que titrent les médias russophones leurs articles consacrés à l'enquête de RFI en citant le travail de nos consoeurs. Par exemple, Novaya Gazeta, le nouveau journal, grand journal indépendant, connu pour ses enquêtes journalistiques, reprend le travail de nos collègues, même en détail et d'une manière exhaustive. Je mentionne au passage que Novaya Gazeta, c'est le journal d'Anna Politkovskaya, cette journaliste tuée pour son travail en Tchétchénie. Que les hommes armés russes, on les appelle mercenaires, instructeurs militaires, sont soupçonnés d'avoir commis les exécutions sommaires, détentions arbitraires, tortures, disparitions forcées, viols, pillages. Ça ne surprend pas les journalistes d'investigation en Russie. Le groupe Wagner, le fameux groupe Wagner, société militaire privée russe, mentionnée dans l'enquête de RFI, est connu depuis des années comme le bras armé privé de Moscou. Sa présence en Centrafrique concentre l'attention des journalistes investigateurs depuis l'assassinat fin juillet 2018 des trois journalistes russes. Reporter de guerre Arkhan Djemal, documentariste Alexandre Rostargouev, caméraman Kirill Radchenko ont péri en Centrafrique pendant leur enquête exactement sur le groupe Wagner. L'enquête officielle a conclu au braquage qui a mal tourné, mais les investigations des journalistes, on cite le Centre Dossier et Novaya Gazeta que je viens de mentionner, contredisent cette version en parlant d'une opération bien organisée, d'un guet-apens. Leur enquête remonte jusqu'au conseiller qui est russe à la sécurité du président Touadéra, Valery Zakharov.
Et plus largement, les médias sont nombreux, multiplient les investigations sur l'ampleur, pour témoigner l'ampleur de la présence russe en Centrafrique, hein, Dimitri.
Oui, à partir de là, et surtout sur la présence officieuse, car officiellement, Moscou affirme avoir déployé en Centrafrique un petit peu plus de 500 instructeurs militaires qui ne participent pas au combat, selon les autorités russes. Côté officieuse, on a appris beaucoup dans ses enquêtes journalistiques sur Yevgeny Prigojine, homme d'affaires originaire de Saint-Pétersbourg, comme Poutine, surnommé le cuisinier de Poutine, parce qu'il était, comme on dit, à l'époque fournisseur de Kremlin, après il a fait fortune dans la restauration collective, en gagnant des milliards sur les marchés publics en Russie. C'est un d'ombre, quoique personnage déjà bien connu à l'Occident. Il est sous sanctions américaines dans l'affaire des ingérences russes aux élections aux États-Unis, avec ses usines de trolls qui répandaient la propagande russe sur les réseaux sociaux. Il est patron présumé du groupe Wagner, qui est actif en Syrie, en Libye, au Soudan, au Mozambique. Le soutien paramilitaire au pouvoir en place est converti par M. Prigojine en contrat lucratif, comme en Centrafrique où l'Obey Invest, lié à Prigojine, a reçu l'autorisation d'exploiter les gisements de diamants, d'or et d'autres minéraux.
Revenons à l'enquête de RFI. Faut-il s'attendre que Moscou réagisse face aux accusations portées contre ses mercenaires en Centrafrique ?
L'ambassade russe a déjà réagi en accusant RFI de spéculation et de fabrication de fausses nouvelles et Poutine a déjà donné sa réponse à la question sur les activités du groupe Wagner à l'étranger.
Значит, если вот эта группа Wagner что-то нарушает, тогда генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если повторяю еще раз, они не нарушают
российского закона.
C'est Poutine qui a parlé des journalistes russes tués en Centrafrique il y a deux ans et des soupçons envers le groupe Wagner. Donc s'ils n'enfreignent pas les lois de la Fédération de Russie, ils sont en droit de travailler, enfoncer leurs intérêts économiques partout dans le monde. Sinon, c'est au parquet général de réagir, dit Poutine. Mais ces mercenaires du groupe Wagner ne sont pas à leur première accusation d'atrocité. Un an et demi déjà, Novaya Gazeta a publié les preuves, photos et vidéos en appui, de la torture et l'exécution barbare d'un Syrien commise par les membres présumés du groupe Wagner en 2017. Pas de réaction ni du parquet, ni du comité d'enquête russe. En mars dernier de cette année, le frère de la victime a porté plainte à Moscou.
Et c'est à retrouver bien évidemment sur le site internet de la rédaction russe de RFI. Merci Dimitri Gusev. Un peu de musique. Alors, Karina Wanko, c'est vous qui avez choisi cette musique. Quelle est-elle et pourquoi ?
Alors, il s'agit de la musique du générique de l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, l'un des documentaires du commandant Jacques-Yves Cousteau. C'est l'homme au bonnet rouge qui a aussi été au Cap-Vert à la baie de Winfern en 1948. Et le Cap-Vert vient de le rendre hommage 73 ans après. Et les Cap-Verdiens ont créé un parcours de street art sur les façades des maisons des pêcheurs, le village de Porto Mosquito.
Et votre reportage est à retrouver sur le site de la rédaction en portugais de Radio France Internationale.
Session Lab, un programme musical.